Emmanuel Macron est donc en Slovaquie et en République tchèque depuis hier. On célèbre ces jours-ci le 100e anniversaire de la création de la Tchécoslovaquie et la France fut l'une des premières à reconnaître cette entité. Mais l'urgence semble moins commémorative que politique pour le chef de l'État français qui va chercher des relais pour ne pas se fâcher avec tous les pays de l'Est de l'Europe, comme l'a dit un proche de l'Élysée, à l'approche d'élections dont l'enjeu est plus important que jamais. Bonjour Luc Van Vinelaar.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes philosophe, vous êtes professeur de droit à l'université de Leyde aux Pays-Bas, vous êtes spécialiste des questions européennes. Vous venez tout juste de faire paraître « Quand l'Europe improvise 10 ans de crise politique » chez Gallimard, un livre qui va nous emmener dans ce chemin ensemble jusqu'à 9h. Peut-être un mot pour commencer sur cette tournée européenne d'Emmanuel Macron. Slovaquie, Tchéquie, ces deux pays qui font partie du groupe de Visegrad, avec la Pologne et la Hongrie, qui portent une ligne plutôt dure, en particulier sur les migrants. Qu'espère Emmanuel Macron en allant là-bas ?
Je pense qu'il espère trouver des ententes avec justement deux membres de ce bloc de Visegrad. Comme vous savez, ils sont quatre, les deux autres étant la Pologne et la Hongrie. Et avec les deux autres, on a des conflits, nous l'Europe de l'Ouest, je dirais, plus forts et plus importants sur la démocratie. En Pologne et en Hongrie, l'état de droit est sous pression, liberté de presse, il n'y a plus de place pour une opposition politique. Et là, c'est des vrais grands enjeux. Mais alors, l'autre différent qui sépare un peu l'Europe de l'Ouest et de l'Est, c'est la migration. Et sur ce plan-là, les quatre du Visegrad forment plutôt un bloc. Et ce que Emmanuel Macron espère maintenant, je pense, c'est un peu donc de se ramasser les bons. Les deux bons du Visegrad contre les deux mauvais, en quelque sorte.
Est-ce qu'il trouve un allié en le Premier ministre tchèque, Andrej Babiš? Il donnait un entretien au quotidien Le Monde hier. « Je suis pro-européen », dit-il. « Je veux que l'Union européenne survive. Nous devons rester unis face aux grands défis internationaux. » Il a un peu tiraillé, Babiš, dans cette histoire.
Non, je crois que c'est très important qu'ensemble, il trouve l'idée, voilà, nous partageons au fond plus que ce qui nous divise. Et Emmanuel Macron, lui aussi, pour sa part, a souligné le socle commun de l'Europe. Donc on sent bien que le président de la République a aussi, sans le désir, un peu de dépasser le clivage Est-Ouest, de souligner aussi l'idée d'une civilisation commune, démocratique, etc. Et sur ce terrain d'entente, ensuite, entamer les grands sujets politiques du jour, que ce soit la migration, je crois aussi qu'ils ont parlé de la taxe du numéraire, etc., où ils espèrent trouver des alliés aussi.
Luc Van Middelaar, sur ce partage précisément, ce clivage Est-Ouest et ce partage sur lequel Emmanuel Macron a construit sa tournée européenne et d'ailleurs sa campagne européenne pour les élections de mai 2019, le partage entre progressistes et nationalistes, entre Europe dite de l'ouverture ou de la démocratie et Europe dite du repli. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce partage aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il est réel, qu'il existe et que c'est là-dessus que Emmanuel Macron a raison de construire sa campagne? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt sur la ligne du MoDem français qui trouve que ce comportement d'Emmanuel Macron est binaire et qui a mis en garde contre ce comportement en pensant que ce serait finalement contre-productif?
J'ignorais que c'était la ligne de MoDem. Voilà, mais je partage un peu ce scepticisme par rapport à la si c'est vraiment une bonne idée. Bien sûr, je comprends. La tentation et l'enjeu est certainement vital. La question des valeurs en Europe, ce n'est pas une question innocente. Mais je crois que là-dessus, il faut bien distinguer les deux plans. D'une part, la question de la démocratie, de l'avenir de la démocratie. Et là, encore une fois, c'est surtout avec la Pologne et la Hongrie qu'il y a des problèmes. Et là-dessus, il faut rester ferme et il faudrait continuer à mettre la pression. Mais d'autre part, il y a aussi des sujets de débat politique, comme la migration. Et là, je trouve qu'il est important de laisser un espace d'échange, de débat, et ne pas mettre tout le monde dans un même sac d'anti-européens d'office, puisqu'on n'est pas d'accord sur le fond.
Mais est-ce que les choses ne se recoupent pas entre ces questions, ces enjeux politiques, l'immigration et la démocratie? Est-ce qu'on n'a pas vraiment un enchevêtrement là des thèmes?
Bien sûr, les choses sont un petit peu liées, mais je pense qu'on peut quand même distinguer, disons, la structure, la démocratie, qui elle, peut étayer ensuite une ouverture des débats politiques. Et je crois que ce clivage entre progressistes et nationalistes, je comprends bien la tentation du président de la République, parce que bien sûr c'est comme ça qu'il a aussi conquis l'Élysée en mai 2017, en jouant les nationalistes contre le centre, et ça lui a brillamment réussi. Et je comprends donc la tentation de répéter l'exercice au plan européen, mais en Europe ça fonctionne pas comme ça. D'une part, il y a c'est pas le même système, ça joue pas en deux tours, donc il peut pas terrasser tous ceux de son camp dans le premier tour et puis vaincre contre la résistance méchante dans le second tour. Mais d'autre part, ça risque aussi un peu de consolider le bloc des antis, et on n'est pas sûr de gagner à l'avance. Donc c'est vraiment un jeu risqué, je dirais. Et d'autant plus que ça risque aussi, en fait, de confirmer une certaine allergie que beaucoup de gens ont déjà vis-à-vis de Bruxelles et du système européen. C'est qu'on a... Il semble souvent qu'on soit obligé d'être d'accord. Hein? Parce que si on n'est pas d'accord, on est taxé soit qu'on n'a pas compris, hein? Soit qu'on est mauvais. Et bien sûr, l'Europe, c'est une bonne chose, et je suis très pour, mais l'Europe doit aussi s'ouvrir à la contradiction. Et encore une fois, si on considère que tous ceux qui... émettent des réserves et des critiques ne sont pas européens, on renforce des clivages. Et dans ce sens-là, le voyage dont on vient de parler, il indique, je pense, aussi un petit peu un infléchissement dans les discours du président. Parce qu'il ne joue pas uniquement sur les clivages maintenant est-ouest, progressiste, nationaliste, mais il recadre aussi un peu l'idée d'une civilisation européenne commune. Et je trouve que c'est très important.
Mais c'est en même temps très compliqué, Luc Van Middelaar. C'est très compliqué parce que si on prend deux exemples cette semaine, la déclaration de Viktor Orban, qu'on peut lire dans Le Figaro de cette semaine. Nous devons mener le combat, dit Viktor Orban, et inviter à nos côtés tous ceux qui croient en une Europe des nations. Faisons le choix de l'indépendance et de la coopération entre les nations, rejetons le contrôle de la gouvernance globale, rejetons l'idéologie de la globalisation et défendons plutôt la culture du patriotisme. Deuxième exemple, l'Italie. On en parlait dans le journal. L'Italie, qui sur son budget tient tête à l'Union. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? On fait comment? On les affronte, on exclut la Hongrie. Là, en septembre dernier, le Parlement européen a voté l'article 7 de sanctions contre la Hongrie, qui peut conduire à un refus de son droit de vote et peut-être à terme, on ne sait pas, une exclusion. Donc on exclut la Hongrie, on exclut la Pologne, ou on les inclut dans le débat, comme vous appelez de vos voeux un débat contradictoire. Est-ce que ça fait partie de ça, de ce choix-là?
On exclut la Hongrie et la Pologne, encore une fois, sur les principes même de la démocratie. Là, il faut être ferme. Mais il y a souvent une amalgame dans ces sujets de la démocratie et le sujet avant tout de la migration. Hein, parce que Viktor Orban, il n'est pas uniquement populaire en Europe de l'Est et dans son pays. Il a aussi, bien sûr, beaucoup de monde qu'il soutient en Europe de l'Ouest, en France, en Allemagne, en Bavière, etc., puisqu'ils lui sont le centre droite aussi même, reconnaissant de fermer les frontières. Et, comment dire, sous excuse de cette reconnaissance, on pardonne aussi l'atteinte à la démocratie de Viktor Orban. Et c'est pour ça que c'est tellement important de distinguer les deux niveaux de...
Des valeurs.
Des valeurs, d'une part, des valeurs démocratiques, et d'autre part, le débat démocratique, par exemple, sur la migration. Et là, ça deviendrait beaucoup plus clair, et ça veut dire... Et ça risque donc de moins nourrir aussi cette idée des bons contre les mauvais, qui peut marcher, puisque bon, bien sûr, il y aura probablement une majorité, disons, pour les bons, entre guillemets, en 2019, mais c'est pas gagné pour la suite. Et encore une fois, je pense que c'est risqué.
Et sur l'Italie, cette question qui monte de plus en plus de la confiscation de la démocratie, du fait que là, il s'agit d'un gouvernement élu démocratiquement qui veut donner une orientation particulière à son économie et qui se heurte, et vous le disiez dans le journal, Luc Van Middelaar, à un bloc avec l'image de la technocratie qui est accolée à Bruxelles. Il se trouve que c'est paradoxal, mais le chef de l'État avait lancé il y a un an une série de consultations citoyennes qui s'achèvent précisément ce week-end sur l'Europe et qui n'ont d'ailleurs pas rencontré un succès monstre. Cette idée de la confiscation de la démocratie. D'ailleurs, dans votre livre, Quand l'Europe improvise, vous le construisez, votre livre, comme une mise en scène théâtrale. Et on a vraiment envie de se demander qui sont les acteurs de cette pièce aujourd'hui en Europe.
Oui, je crois que ça c'est une vraie question. Les gens veulent, le public, pour parler en termes de théâtre, se fait entendre par beaucoup de sifflements, quelques bravos aussi, mais quand même beaucoup de sifflements, et veut savoir qui décide, qui incarne les choix, qui prend la parole. Et ça, c'est vraiment un vrai changement par rapport à un passé encore assez récent où c'était plutôt l'ennui qui régnait, l'indifférence.
L'ennui, pas la nuit. L'ennui, hein,
l'ennui. C'est ça, ouais, l'ennui. Oui, l'ennui, pardon, excusez-moi. l'indifférence où le théâtre avait des rideaux un peu fermés. Là, depuis les années de crise, tous les grands sujets, l'euro, la frontière, etc., les rideaux sont franchement ouverts du théâtre, la lumière est là-dessus et le public veut savoir ce qui se passe. Et du coup, ça crée beaucoup plus de tensions. Moi, j'en conclue pas directement que ça met l'Europe en crise, mais c'est aussi un signe de maturité politique puisque l'Union européenne s'ouvre désormais plus à la contradiction et à la contestation. Bah, du coup, comme vous dites, ça met en lumière d'autant plus les tensions entre l'expression populaire de nouveaux gouvernements, comme en Italie, les règles ou bien les majorités en place.
Ça met en tension, mais c'est quand même une situation inédite qu'un membre de la zone euro refuse expressément les règles du jeu du pacte de stabilité et de croissance. Alors la Grèce a essayé justement, et elle s'y est heurtée, et elle en a payé le prix.
Le cas de figure, c'est un peu en effet comme avec le gouvernement Syriza en 2015, qui a rejeté les propositions de Bruxelles et de Berlin, et qui pensait le faire aussi au nom du peuple grec, même référendum à l'appui. Le Premier ministre à l'époque, Alexis Tsipras, il venait à Bruxelles avec vraiment l'appui très fort de son peuple. Il pensait se heurter uniquement à un bloc de règles, le FMI, Bruxelles, etc. Mais en fait, il s'est rendu compte qu'il n'était pas uniquement face à un bloc de règles de la technocratie, mais aussi à 18 autres gouvernements démocratiquement élus, qui, en gros, je résume très brutalement, n'avaient pas envie, dans ce cas-là, de payer pour les promesses électorales de M. Tsipras. Donc, c'est pas uniquement un gouvernement face à la technocratie, c'est aussi un gouvernement face à un ensemble d'autres gouvernements. Et c'est la même chose aujourd'hui pour l'Italie. Bien sûr, c'est l'Italie contre Bruxelles. Et Bruxelles, comme je disais tout à l'heure, devrait jouer un petit peu moins « c'est comme ça ». Et juste les règles, mais aussi ouvrir un espace de débat. Mais, comment dire, en dessous ou derrière la règle bruxelloise, il y a aussi, bien sûr, des gouvernements avec leurs préférences. Et c'est pour ça qu'il faudrait plutôt parler, l'euro, on est co-responsable, c'est une espèce de syndic. Et bien sûr, s'il y a quelque part, un nouvel arrivé dans l'immeuble, il aurait peut-être envie de changer des choses, mais il ne peut pas renverser tout, parce qu'il y a aussi une responsabilité commune.
Luc Van Middelaar, vous vivez à Bruxelles. Vous avez suivi cette histoire de renouvellement de la flotte aérienne belge, le fait que la Belgique a préféré acheter des avions F-35 américains plutôt que des Rafales français ou des Typhoons européens. C'est un camouflet, on dit, pour la défense européenne. Alors, là où vous dites que l'Europe peut sortir renforcée, et on va le voir dans la deuxième partie des entretiens, de toutes ces années de crise, on voit aussi quand même qu'elle est au bord de l'implosion. Alors, j'entends votre optimisme, mais là encore, même sur la défense, on n'y arrive plus.
Ouais, c'était décevant.
On n'y est jamais vraiment arrivé, mais bon.
Surtout, bon, moi je suis néerlandais en Belgique, donc je dois un peu être poli vis-à-vis de mes hôtes. Mais j'étais un petit peu déçu de ce choix, en effet.
D'accord.
France Culture, les matins du samedi. Caroline Bourré.
Eh bien, restez avec nous. J'espère qu'on ne va pas vous décevoir, Luc Van Middelaar, avec cette revue de presse qui va suivre de Natacha Trioux. Il est 8h30. Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
Des articles à lire dans la presse ce matin et d'autres plus fouillés que l'on peut lire ce week-end. À la une, pour commencer, des grands quotidiens du matin, précisément la montée des populismes. Libé, Le Parisien aujourd'hui en France et Le Monde en font leur une.
National populisme, la contagion mondiale, un titre Libé. Demain au Brésil aura lieu le second tour des élections présidentielles, où le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro part gagnant. Demain le Brésil, aujourd'hui la Turquie, les Philippines, les États-Unis, l'Inde, la Russie. Comment les droites radicales ont-elles à ce point gagné du terrain? Libération consacre ses 10 premières pages à cette question, avec une map monde, noire, bleu marine, où l'Europe se voit elle aussi très concernée par ce phénomène. Le Figaro, en page 4, rappelle qu'à quelques mois des élections européennes, dans l'Europe de l'Est, le populisme gagne aussi du terrain. Le Parisien, aujourd'hui en France, lui, dresse les points communs entre tous ces leaders populistes. Pour eux, les responsables, ce sont les élites, défiance envers les médias et défense des valeurs conservatrices.
La presse s'est également arrêtée plus longuement sur le très plébiscité Bolsonaro, le dossier de Mediapart, le Brésil face au risque fasciste, et aussi dans Society cette semaine avec le reportage depuis Rio de Janeiro intitulé « Cauchemar tropical ».
Plus qu'un portrait du capitao de 63 ans, l'article dépeint un pays en crise. Entre explosion de la violence et scandale de corruption politique, les témoignages recueillis montrent un Brésil miné par un essoufflement démocratique et par des inégalités sociales brutales. On apprend qu'au Brésil, un meurtre est commis toutes les 8 minutes. Dans ce contexte, Bolsonaro a fait de la lutte contre la violence son cheval de bataille. Cauchemar tropical, une allusion à son surnom, le Donald Trump tropical. Le reportage montre d'ailleurs bien les parallèles entre les deux matamores, et notamment leur appui extrêmement puissant de l'Église, des évangélistes et des ultra-conservateurs. On estime que 80% des leaders évangéliques soutiennent le candidat de l'extrême droite. Un cauchemar tropical aussi parce que la panique politique a même gagné les cabinets de psychanalystes. C'est ce que nous rapporte le site internet autrebrésil.net, où les docteurs recensent la terreur de l'autre partie de l'électorat brésilien. Car contrairement à son homologue américain, c'est le spectre d'un régime militaire qui plane sur cette élection. De ses propres aveux, Bolsonaro est un nostalgique de la dictature brésilienne de 64 à 85. Et le Brésil, lui, est une jeune démocratie qui fête tout juste son 30e anniversaire.
Dans un tout autre registre, mais quand même, sécurité et violence, c'est aussi des thèmes que l'on retrouve en France. Natacha, la semaine a été émaillée d'événements forts au sein de l'éducation nationale. Au commencement, la vidéo virale d'une enseignante braquée par un lycéen avec une arme factice qui a donné naissance à un hashtag « pas de vague ».
Pas de vague, ou comment les enseignants dénoncent le manque de soutien de leur hiérarchie. Mercredi dans Le Monde, l'entretien avec Benjamin Moignard, spécialiste des violences scolaires. S'ils sont 1% à avoir subi de la violence physique, en revanche, c'est toute la profession qui subit des violences psychologiques, insultes et intimidations. Les enseignants éprouvent un sentiment d'abandon par l'institution, dit-il, pour preuve justement le succès de ce hashtag. Un malaise à l'école très relayé dans la presse cette semaine, et on apprend dans Le Monde de ce matin que le gouvernement va opter pour un arsenal de mesures sécuritaires et pense faire entrer la police dans certaines écoles. À rebours de ces articles, L'Opinion et l'enseignant historien Benoît Falaise expriment dans la revue en ligne AOC ce jeudi ce que l'école peut et doit toujours sans surfer sur la vague. Selon lui, le discours très largement exploité médiatiquement est décliniste, alarmiste, au final contre-productif. Alors sans nier les difficultés réelles que rencontrent les enseignants, il dit qu'il ne faut pas oublier de valoriser les réussites quotidiennes du monde scolaire. Il est urgent, pour éviter le délitement accentué du tissu social, de rééquilibrer les discours sur les banlieues et leurs habitants dans des territoires de la République à part égale avec les autres, écrit-il. À l'expression « territoire perdu de la République », qui stigmatise l'école, les enseignants et les élèves, il lui préfère « territoire vivant de la République », le titre de l'ouvrage qu'il a d'ailleurs publié en cette rentrée. À ses yeux, plutôt qu'être en marge de la République, ces écoles en sont au contraire son principal moteur.
Vous voyez, Luc Van Middelaar, elle est comme vous, Natacha Trioux. Elle préfère regarder ce qui marche plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Peut-être juste un mot sur ce que vous venez d'entendre, la montée des populismes un peu partout.
Oui, c'est en effet très flagrant aussi maintenant au Brésil, bien sûr. Et là aussi, pour faire la comparaison avec l'Europe de l'Est, on voit que il s'agit aussi de démocraties très jeunes. Le Brésil a encore dictature militaire jusque dans les années 80. Bien sûr, les pays en Europe de l'Ouest étaient sous le joug soviétique jusque 89 et n'ont pas connu vraiment de démocratie, vie démocratique dans l'entre-deux-guerres non plus. Et donc, tandis qu'on pensait que la démocratie s'était bien installée, que c'était devenu une évidence.
La fin de l'histoire, on disait.
Là, on sent que c'est beaucoup plus fragile et qu'il faut donc défendre ça clairement.
Mais cette vague populiste est née malgré tout d'une élection dans un pays où la démocratie n'est pas si jeune, les États-Unis, Donald Trump, et vous dites, Luc von Middelaar, vous écrivez plus exactement dans votre ouvrage, Quand l'Europe improvise 10 ans de crise politique, vous dites à quel point ce qui se passe aussi en Europe, pour y revenir, doit à cette élection de Donald Trump.
Oui, je crois que ça, c'était le plus grand choc, non pas uniquement pour l'ordre mondial et pour la place des États-Unis, qui ne se met plus en garant des institutions internationales, qui ne fait plus le flic mondial dans le bon et le mauvais sens du terme, mais qui se replie, où le président américain a tiré la conclusion que ses électeurs n'aiment pas la mondialisation, et donc qui commence maintenant à affronter la Chine. Donc il y a une rivalité qui était un peu sous-jacente, qui s'éveille au grand jour. Donc là, c'est un vrai grand choc. Mais pour l'Europe, ça signifie encore plus. C'est un vrai défi. Parce que, bon, si on prend un peu le temps long, bien sûr, depuis 1945-50, on s'est fié pour notre sécurité aux États-Unis. OTAN et compagnie, mais bon, en gros, c'est Washington. Et on a gentiment demandé aux Américains de venir chez nous. Hein. On parle parfois d'un empire américain par invitation. Mais maintenant, les Américains disent, bon, ça ne nous intéresse pas forcément. En tout cas, Trump le dit. C'est pas un bon deal pour nous. Et ça nous met, ça nous humilie, en fait. Et on voit que, collectivement, les Européens, nous ne sommes pas capables à nous défendre, à défendre nos intérêts et nos valeurs comme il faudrait, dans le monde, en effet, qui ressemble plus, ou qui va ressembler plus au XXIe siècle, au monde du XVIIIe qu'aux 70 dernières années. Et ça demande une meilleure organisation des Européens, mais ça commence, je pense, par une prise de conscience de la situation qui... c'est pas pour être optimiste ou pessimiste, mais la situation, évidemment, est complètement nouvelle. Je crois qu'on n'en a peut-être pas encore pris la mesure partout. Quand même un peu, moi je regarde pas uniquement bien ce qui se passe en France, mais aussi ce qui se passe en Allemagne, à Berlin, et je constate qu'en Allemagne, il y a un vrai débat politique. Les Allemands, ils sont vraiment obsédés par ce qui se passe aux États-Unis, parce que plus que qu'autres pays européens, l'Allemagne de l'Ouest a misé sur les États-Unis pour sa sécurité et pour les fondements même de l'État allemand. Et les Allemands se rendent compte que ça fonctionne plus. Ils sont complètement déboussolés, ça panique, en gros. Bon, ça panique dans des livres, des débats, des conférences, mais ça panique. Et c'est un revirement intéressant aussi pour la France, je trouve, puisque la France a exprimé cette conviction depuis le début, en gros, que dans le monde plus grand, c'est l'Europe qui devrait pouvoir agir. Bon, ça, tous les présidents français ont exprimé cette conviction. De Gaulle, il parlait d'indépendance. Giscard Mitterrand, c'était puissance. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il parle de souveraineté européenne. C'est un peu la même ligne politico-intellectuelle. Et la grande chance d'Emmanuel Macron, c'est qu'en fait, c'est le premier moment, jamais, que les autres peuvent l'entendre. Que les Allemands, les Néerlandais que je connais bien, qui ne voulaient jamais entendre parler des sujets comme ça, ils pensaient que c'était des hobbies français qui cachaient des intérêts français. Aujourd'hui, ils se réveillent aussi un petit peu à leur tour et se disent, voilà, il faut quand même qu'on s'organise en tant qu'Européens. Et ça, ça c'est un changement, je pense, dont on n'a pas encore saisi toute l'ampleur.
Et c'est tout l'enjeu de ce livre que vous publiez, Luc Van Middelaar, Quand l'Europe improvise, puisque vous examinez 10 années de crise. Alors évidemment, crise de l'euro, crise ukrainienne, crise migratoire de 2015, puis crise après le Brexit et l'élection de Donald Trump. Vous dites que l'Europe, que l'édifice, disons, vous paraît plutôt solide hein, après ces crises. Disons que l'implosion n'a pas eu lieu. Pas encore, peut-être, c'est quand même la question qui est devant nous. Mais effectivement, ce qu'on comprend, et ce qu'on comprend en vous entendant parler, c'est à quel point l'Europe sort peut-être renforcée, mais parce qu'elle a conscience qu'elle est mortelle.
Oui.
Beaucoup plus qu'avant. C'est
oui,
ça
pour moi, ça, c'est en effet un point fondamental. Avant, elle pensait, comme vous disiez, qu'on était dans la fin de l'histoire, dans l'éternité, que rien ne pouvait se passer. Aujourd'hui, elle est peut-être plus fragile, mais du coup, ça donne aussi un instant de survie et un désir de vivre. Et ça, c'est nouveau.
C'est le moment de vérité,
oui,
quoi.
C'est le moment de vérité. Moi, j'ai vécu ça de près au début de ces années de crise.
Vous avez été la plume du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, de 2010 à 2015, avec quelques mois encore de son successeur, Donald Tusk.
Voilà, ça veut dire que j'étais présent lors de tous les sommets de vérité qui ont lieu pour sauver l'euro à l'époque de Sarkozy-Merkel, puis la crise ukrainienne qui a éclaté avec la Russie. Et j'ai donc senti aussi autour de cette table des chefs, comme on dit, hein, les présidents et premiers ministres européens, à des moments de vérité qu'il y avait quelque chose de plus, en quelque sorte, et qu'ils étaient bien conscients que l'enjeu était au fond la survie même de l'Europe. Malheureusement, uniquement quand ils étaient devant l'abîme. Beaucoup d'actions et de décisions ont été uniquement prises donc dans l'urgence et sur le mode, comme je dis, de l'improvisation. Mais il n'empêche qu'à des moments de vérité, les dirigeants sont rendus compte de cela. Et je pense, pour changer la perspective, l'opinion publique aussi, en fait, prend conscience aujourd'hui que l'Europe, c'est aussi un destin. Et que, qui leur appartient et qu'il faudrait qu'ils s'approprient peut-être davantage. Et pour ça, il faudrait une meilleure mise
mais certains,
en scène
mais oui, mais certains,
politique.
Oui, bien sûr, mais certains disent, on ne demande que ça. On veut le faire, mais on nous en empêche. Et le « on », évidemment, c'est ce bloc de Bruxelles. Mmh. On nous en empêche, on essaye, on fait des référendums, on ne tient pas compte de notre avis. Et donc on va aller dans les mains de ceux qui disent qu'il faut en sortir pour pouvoir y arriver. Et on est coincé malgré cette prise de conscience-là.
Oui, je crois que les peuples européens se sont fait entendre par coup de référendum, élections nationales aussi. Ça n'arrivait jamais dans le passé, mais aujourd'hui, de plus en plus, ils sont aussi décidés sur des sujets européens, que ce soit l'euro ou la migration. Sans doute, les élections européennes de mai 2019 vont aussi beaucoup se jouer sur le sujet de la migration, parce que, en gros, c'était la plus grande crise qui a traversé l'Europe depuis la dernière fois qu'on a voté en 2014. Et on voit déjà dans quelle direction ça va. Et ça demande donc aussi aux dirigeants d'écouter ce mécontentement des peuples au pluriel et d'infléchir les politiques.
Il est minuit moins 5, hein, Luc Van Middelaar, malgré tout. Alors, il n'est pas vraiment minuit moins 5, d'ailleurs, on change d'heure demain. On passe
oui,
à l'heure d'hiver
est-ce
demain.
Est-ce qu'on a encore le droit à notre heure d'été l'année prochaine?
C'est la grande question, mais cela dit, cette heure d'hiver a été instaurée en 1976 dans le but de limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel, nous dit-on. Et c'est une décision de la Commission européenne qui veut y mettre fin, là encore, mais petite ouverture, en laissant chaque pays décider. Ça va être un joyeux bazar, tout ça.
Ouais, ça va être un bazar. Ça, j'ai pas compris comment ils ont pas prévu ça, parce que quand on dit à la fois c'est une meilleure idée d'avoir la même ligne, et puis on dit que c'est à chaque pays de décider, ça va être assez bordélique. Et j'espère que le résultat final des courses, c'est que ça, rien ne changera.
Luc Van Middelaar, vous êtes néerlandais, vous vivez à Bruxelles. Vous regardez de très près ce qui se passe dans chaque pays de l'Union européenne. Vous parlez un français parfait. C'est ça être européen ?
Ben non. On peut aussi être parfaitement européen dans sa drôme profonde. Il ne faut pas avoir uniquement le drapeau européen dans les jeux pour être européen. Et justement, moi, ce que je cherche à aussi à travers mes écrits, c'est de casser un peu l'idée que l'Europe, c'est uniquement ceux qui connaissent Bruxelles. L'Europe, c'est nous tous, c'est tous nos pays. Et c'est cette conscience-là qui permet uniquement ensuite de construire un avenir commun.